Guitare à cordes, psaltérion, sous ces instruments à cordes, un peu comme des petites harpes, nous allons le voir, qui viennent soutenir le chant religieux ou méditatif. Plusieurs événements autour de cet instrument sont proposés du 2 au 6 mars à l'abbaye d'Ancalca. Nous en parlons ce matin avec Catherine Weidmann, musicienne. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes en direct encore de Suisse où vous habitez, mais vous n'allez pas tarder à rejoindre l'abbaye d'Ancalca pour cette session, ce grand colloque sur la cithare et le psaltérion. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, décrire chacun de ces instruments et montrer ce qui les différencie?
Oui, alors la cithare, on va dire, c'est une grande famille d'instruments. Hein, c'est cithare, ça veut dire c'est une caisse de résonance qu'on appelle une table, et sur cette table il y a des cordes qui sont tendues. Voilà. Et la particularité de la cithare à accords, c'est qu'elle a des accords qui sont déjà construits, avec lesquels on peut s'accompagner facilement, puisque l'accord il n'est pas faire comme sur un piano, mais il est déjà donné par l'instrument lui-même. Voilà, ça c'est
ça,
la
c'est
cithare.
Plus facile, grande... la cithare.
Voilà, la cithare, une grande famille d'instruments et une particularité, la cithare a un accord qui, elle, a des accords qui sont déjà construits. Bien, le psaltérion...
Voilà, le psaltérion fait-il partie de cette famille de cithare?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Donc, le psaltérion, c'est en fait un instrument de la famille des cithares, hein, qu'on retrouve sur tout le globe. Hein, on trouve des cithares au Japon, partout. Et le psaltérion, il a été en fait, on va dire comme ça, imaginé par les frères de l'abbaye d'Ancalca. En fait, il faut se resituer dans la mouvance du Concile Vatican II. Hein, il faut créer beaucoup de liturgies en français. Il faut retrouver peut-être une source avec les psaumes. Et il y a des religieux qui disent, ben, dans les psaumes, on parle de la cithare. Eh bien, on pourrait peut-être accompagner les psaumes dans la liturgie avec une cithare. Maintenant, la cithare, elle est trop petite pour avoir, je dirais, tous les accords possibles pour accompagner la liturgie. Il faut un instrument qui est plus grand. Mmh. Et ça, c'est le travail magnifique de l'abbaye d'Ancalca, c'est qu'ils vont créer un instrument avec les 12 accords qu'il y a pour accompagner, 12 accords mineurs, 12 accords majeurs, et cet instrument va recevoir le nom de psaltérion. Ce nom psaltérion, on le trouve dans le texte de la Septante, hein, qui est la Bible, la plus ancienne traduction de la Bible en grec, donc encore avant Jésus-Christ. C'est une traduction de l'hébreu en grec, et dans cet écrit, dans cette traduction, on trouve le mot de psaltérion, qui est en fait en lien étymologiquement avec le mot psaume.
Eh oui, c'est ça, c'est pour accompagner les psaumes et les mettre en musique.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Donc le psaltérion, c'est l'instrument qui accompagne les psaumes.
D'accord. Est-ce que c'est un instrument qui a évolué dans le temps, la cithare et la cithare?
Je dirais que oui, il évolue dans le temps, bien sûr, parce que la connaissance des matériaux, les cordes, tout ça, ça a changé au cours du temps. Et comme je vous le disais avant, il y a des données aussi géographiques qui sont très, très importantes.
En fait, on a commencé à l'utiliser à partir de quelle époque?
Si on pense qu'une cithare, c'est une table avec des cordes qui sont tendues, c'est bien avant notre ère chrétienne, hein, probablement peut-être en Iran, où il y a un grand foisonnement là, instrumental, dans cette zone-là où est l'Iran actuel. Donc, j'ai pas de date précise à vous donner. J'avais lu des textes comme quoi le psaltérion, de nouveau on retrouve ce mot, serait partie des instruments sacrés de l'Égypte ancienne. Voilà, ce sont des données un petit peu pour situer.
Oui.
C'est très, très ancien.
C'est très ancien. Alors, vous le disiez, oui. Catherine Weidmann, l'abbaye d'Ancalca a produit depuis près de 40 ans 5000 instruments environ qui sont dispersés dans plus de 70 pays. Et pendant votre colloque, on va pouvoir visiter cet atelier de cithare.
Alors, oui, bien sûr, c'est toujours possible. Hein. Dans tous les cours, sessions que je donne à Angalcat, c'est toujours possible de visiter l'atelier des sitars. Voilà, maintenant, c'est pas ouvert, je sais, au public, à moins de le demander, mais oui, bien sûr.
Vous vouliez préciser que tout le travail de formation autour de cet instrument du psaltérion et de la sitar à accords, en fait, est porté par une association elle-même.
Voilà, alors il y a une association qui s'appelle les Amis de la Sitar, alors qui cherche vraiment à faire du lien, c'est un petit peu son leitmotiv toujours. On cherche à faire du lien entre les sitaristes, entre les enseignants, entre les luthiers, pour faire connaître cet instrument, l'utiliser toujours plus dans la liturgie, soutenir en fait toutes les demandes qu'il y a autour de cet instrument, qui est alors quand même relativement neuf. Hein. La
Oui.
sitar à cordes, elle naît en Allemagne autour de 1870, par là autour. Hein. Le désir en fait, c'est de créer un instrument qui est facile, avec lequel on puisse très facilement accompagner les chants qu'on connaît. Donc là, il y a un côté,
Accessible, en
je dirais
fait.
folk. Oui, tout à fait. Il y a un côté populaire. Hein. On cherche à mettre la musique à la portée de tous. Donc la sitar à accords, elle naît dans ce contexte-là, dans le sud de l'Allemagne, vers sud, vers si vous voulez, dans la région vers Munich, pour mettre une grande ville là dans cette région. Et là, on s'adresse à de la musique populaire. Tandis que le psaltérion créé par Angalcat, le but de l'instrument, c'est vraiment religieux.
Oui, bien
On
sûr.
cherche à accompagner la liturgie, à accompagner tout particulièrement les psaumes, à donner en fait un caractère un peu méditatif à la prière. Donc c'est un soutien de la prière.
Vous êtes Catherine Weidemann, violoniste vous-même, vous jouez
Oui,
aussi du
oui, oui.
psaltérion
Oui.
et vous êtes inspirée, en tout cas dans la formation que vous allez donner, vous allez faire un lien entre les chants d'Hildegarde de Bingen et l'instrument. Expliquez-nous.
Oui, alors, Hildegarde de Bingen, bon, elle sort de l'ombre, hein, je dirais, on commence de plus en plus à la connaître, surtout pour tous ses conseils par rapport à la nutrition, la diététique. Voilà, il y a aussi plein de produits de beauté aussi qui font référence à Hildegarde. Bon, je dirais que Hildegarde, on ne peut pas la comprendre sans son lien Dieu. Hein. Elle a des visions et dans ces visions, elle entend aussi de la musique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous parle de la musique dans une de ses lettres, et elle dit que la louange nous met en communion avec les anges et les saints. Et cette louange, elle peut s'exprimer autant par la voix que par le jeu des instruments. Là, elle reprend le psaume 150, hein, louez-le avec l'instrument à 10 cordes, avec la sitar, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et elle place la musique, elle place les instruments, le chant, dans ce lien en communion avec les anges et les saints. Donc les instruments de musique, pour elle, ils sont inventés grâce à l'Esprit de Dieu, hein, pour que la joie de l'âme puisse chanter.
Oui.
Donc il y a un lien, il nous appelle en fait à rentrer en communion avec les anges et les saints par sa musique. Et
Oui.
l'instrument, ce n'est pas simplement un accompagnateur de la voix, hein, mais il est en interaction avec la voix.
Oui, il a
C'est très
aussi son
intéressant.
rôle de chanter la louange de Dieu.
Oui, tout à fait, tout à fait. Elle nous dit leurs chants s'adaptaient aux flexions de leurs doigts. C'est très intéressant dans une époque où en fait. Voilà, l'instrument, il ne fait pas forcément partie de la liturgie. Mais cette idée, en fait, elle est essentielle parce qu'elle nous transmet une pratique peut-être plus libre que ce qu'on pense, hein, de l'art de la psalmodie, où l'instrument, il a une place, il dialogue et il inspire la voix. Donc, ce n'est pas juste en accompagnement de la voix, c'est beaucoup plus que ça dans sa conception.
Oui. Alors, il y aura une autre artiste qui va intervenir lors de ce colloque sur la cithare à l'abbaye d'Encalcade, c'est Margarida Barbal. Elle chante, elle s'est spécialisée en musique médiévale et dans le grégorien. Comment s'approprie-t-elle les paroles de Saint-Hildegarde?
Alors, ça, c'est très, très important. On ne peut pas chanter Hildegarde sans rentrer complètement dans son texte.
Ah oui.
Il faut en fait vraiment le sentir et se mettre vraiment dans cette communion des anges et des saints pour pouvoir chercher à l'interpréter. C'est pas juste, je dirais, de la musique, voilà.
C'est pas juste une interprétation extérieure. C'est vraiment un chant
exactement.
Qui fait appel aux profondeurs de l'âme.
Oui, tout à fait. Pour en fait, Hildegarde, la musique, c'est la forme d'activité la plus élevée de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'avec la musique, il y a un miroir de l'harmonie céleste et des chœurs angéliques qu'elle-même a entendus et qu'elle cherche à nous transmettre dans ses chants. Hein ? Donc en fait, Margarida, elle cherche à vivre par son interprétation des chants cette communion, je dirais, avec cet univers cosmique que Hildegarde nous montre.
Oui.
Donc la beauté de la musique, elle a une place énorme dans la liturgie pour Hildegarde.
Oui, c'est ça. Alors, le colloque sur la cithare et le psaltérion à l'abbaye d'Encalcade qui va se dérouler entre le 2 et 6 mars, il va avoir 3 temps, un concert le 2, une session de formation du 3 au 6 et une exposition artistique sur la thématique des anges musiciens. Vous en parliez de ces anges, Catherine Weinmann. Et donc, cette exposition, elle va durer tout le temps du colloque finalement.
Oui, tout à fait. Donc, il y a des anges musiciens qui sont peints par Muriel Boursin, qui vient du Tarn, hein, qui est de Albi. C'est des anges vraiment magnifiques. Elle a été formée, elle a plusieurs formations à son arc, mais entre autres, une personne qui est assez connue dans le Sud, c'est Michael Grechny. Donc, elle utilise des techniques, la tempéra, l'imprimature, les glacis, le travail à la feuille d'or. Voilà, mais elle va utiliser toutes ces techniques dans une vision, je dirais, plus contemporaine, avec des anges musiciens très beaux, grands, avec des belles ailes, des instruments. Voilà, je me réjouis de voir l'exposition en vrai et pas seulement en photo.
Ah oui, c'est ça. Et puis, il y aura aussi des icônes.
Voilà, exactement. Exactement. Il y aura également des icônes de Mireille Audouin-Pons, qui est aussi dans le Tarn, qui est tout près de l'abbaye d'Encalcade, qui est aussi formée depuis de longues années. Elle est un professeur de la Russie, qu'elle voit toujours très, très régulièrement pour toujours progresser dans cet art incroyable de l'iconographie. Et on a fait des sessions aussi avec elle. Icônes et cithare, voilà, pour essayer de lier les deux arts. Et elle fait aussi des grands formats d'icônes, des icônes magnifiques. Vraiment, elle a une expérience immense et de très belles œuvres. Les deux choses, les anges musiciens et les icônes, vont être, je pense, vont bien pouvoir raisonner par rapport à la musique, par rapport à tout ce qui se passe autour de cette thématique, autour de Hildegarde.
Mmh. Cette session de formation du 3 au 6 mars qui va regrouper plusieurs sitaristes amateurs de tout niveau autour d'Hildegarde de Bingen, qu'est-ce que vous allez proposer, quelle formation vous allez donner, Catherine Weidmann?
Alors, cette formation, c'est vraiment... elle s'ouvre à des personnes qui savent déjà un minimum un petit peu jouer avec le psaltérion. Il faut un psaltérion, une cithare à accord ne suffit pas, c'est pas assez grand en fait comme instrument. On a besoin des 12 accords. Et l'objectif, c'est vraiment de goûter à cette musique, c'est découvrir comment est-ce que en chantant, en accompagnant, en jouant, comment est-ce qu'on est appelé à toucher en fait cet ineffable, à vivre cette expérience sonore de l'ineffable et plus globalement de l'amour inconditionnel de Dieu présent dans sa création et dans l'homme.
Un dernier mot sur le concert Lumière de l'Aube donc, qui aura lieu le dimanche 2 mars à 16h.
Voilà, donc le concert, donc avec Margarida qui chante, il y aura également des cloches qui vont accompagner, donc aussi le psalterion. C'est en concert, on va jouer en fait 8 pièces, 8 chants de Hildegarde qui ont été, j'ai envie de dire, mis en musique, hein, parce que Hildegarde a créé simplement les mélodies. Il n'y a pas c'est trop tôt pour avoir en fait une vision harmonique, mais comme on sait qu'elle avait des visions et qu'elle a entendu, elle, cette multitude, hein, chantant l'harmonie dans la prière de la hiérarchie céleste, elle a entendu. Et c'est ce qu'on cherche un tout petit peu à essayer de mettre en musique, en accompagnant ces chants, en ayant aussi des parties solo, des parties de cloche, pour, voilà, encore une fois, faire goûter à travers 8 pièces cette musique de Hildegarde qui devrait ouvrir des choses dans notre âme,
Voilà, ce
qui
sera
devrait
donc
en fait nous.
toute
Oui.
cette proposition qui est faite à l'abbaye d'Ancalca, un colloque sur la cithare et le psaltérion. Il reste des places pour
Oui.
la session de formation du 3 au 6 mars. Merci beaucoup, Catherine Weidemann, de nous
Merci.
avoir présenté tout cela. Bonne journée.
Merci beaucoup, Isabelle Duché.